Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce journal de Nu Info. Au menu, le Conseil de sécurité examine la situation au Mali. L'UNFPA cherche à garantir les services de santé reproductive face aux violences au Darfour. L'OMS annonce 13 défis sanitaires prioritaires pour la prochaine décennie. Et en dossier à Genève, l'ONU marque les 10 ans depuis le séisme dévastateur en Haïti. Le Conseil de sécurité s'est réuni ce mardi sur la situation au Mali, l'occasion pour le chef des opérations de paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, d'alerter les membres du Conseil sur la dégradation sécuritaire dans ce pays d'Afrique de l'Ouest et dans la région du Sahel. On écoute Jean-Pierre Lacroix.
La MINUSMA n'est qu'un élément d'une réponse collective plus large pour lutter contre l'instabilité et la violence et leurs causes profondes au Mali et dans la région du Sahel et pour protéger les civils. Nous sommes encouragés par l'engagement ferme exprimé par les chefs d'État des pays du G5 Sahel de lutter contre le terrorisme au Mali et dans la région du Sahel, avec d'autres présences internationales à leur côté. Les forces nationales et internationales jouent un rôle essentiel et leur contribution reste fondamentale, même si une solution militaire à elle seule ne sera pas suffisante pour résoudre les problèmes auxquels le Mali et la région sont confrontés. L'ONU reste profondément déterminée à travailler avec tous ses partenaires pour lutter contre les causes profondes du terrorisme, de l'instabilité et de la violence au Mali et au Sahel. Dans le cadre de son engagement dans le Sahel, la mission n'a ménagé aucun effort pour fournir à la force conjointe du G5 Sahel un soutien opérationnel et logistique conformément aux résolutions 2391 et 2480 et a répondu favorablement à toutes les requêtes qu'elle avait reçues de la force conjointe.
Ces derniers mois, la mission de paix de l'ONU dans le pays a fait tout son possible pour mettre en œuvre sa deuxième priorité stratégique dans le centre du Mali, tout en continuant de s'acquitter de tâches à l'appui de sa principale priorité dans le nord du pays. Selon Jean-Pierre Lacroix, la présence et les activités accrues de la MINUSMA dans la région de Mopti ont contribué à empêcher une nouvelle escalade de la violence intercommunautaire et des massacres à grande échelle. Mais les efforts de la MINUSMA dans le centre du Mali oblige cependant la mission onusienne à détourner des capacités clés et Jean-Pierre Lacroix a souligné que la réponse aux défis sécuritaires au Sahel ne peut pas reposer uniquement sur les capacités de la MINUSMA.
La situation sécuritaire au Mali et dans l'ensemble de la région du Sahel se détériore à un rythme très préoccupant. La semaine dernière, 18 soldats de la paix ont été blessés lors d'une attaque contre le camp de la MINUSMA à Tessalite. Et récemment, 89 soldats nigériens ont été tués lors d'une attaque contre leur base près de la frontière malienne. Le 4 janvier, 14 enfants avaient perdu la vie dans une attaque contre un autobus près de la frontière malienne dans le nord du Burkina Faso. Les groupes terroristes prolifèrent dans la région de Menaka et Gao. Nous avons assisté à une augmentation des attaques d'engins explosifs improvisés contre nos convois, attaques qui ont occasionné plusieurs blessés chez les casques bleus. Ces incidents se produisent quasi quotidiennement, en tout cas très régulièrement. Je note d'ailleurs que les mesures de protection que la force a prises depuis maintenant plus d'un an ont permis de limiter le nombre de tués, en tout cas. Bien entendu, il reste beaucoup à faire dans ce domaine. Le terrorisme continue d'alimenter la violence intercommunautaire dans le centre du Mali et nous comptons actuellement plus de personnes déplacées souffrant de la faim dans la région de Mopti que par le passé.
La région du Darfour occidental au Soudan connaît une instabilité persistante et des milliers de femmes se retrouvent sans protection et services adéquats en matière de santé reproductive. Selon l'Agence des Nations Unies chargée de la santé sexuelle et reproductive, l'UNFPA, leur vie, leur santé et leur sécurité sont menacées. Jérôme Bernard nous en dit plus.
Depuis fin décembre, des conflits intercommunautaires dans des camps de déplacés ont forcé plus de 40 000 personnes à fuir, dont environ 10 800 sont des femmes en âge de procréer. Le ministère soudanais de la Santé estime que plus de 3 400 femmes enceintes ont un besoin urgent de services adéquats de santé reproductive. Parmi ces femmes, environ 700 sont enceintes de 9 mois et devraient accoucher bientôt. Selon l'UNFPA, une action immédiate est nécessaire pour sauver des vies et assurer la santé et la sécurité des femmes. Des mesures immédiates ont été prises pour répondre aux besoins d'accouchements sûrs et de services de santé reproductive, notamment le déploiement d'environ 160 sages-femmes. Même si l'UNFPA se félicite de cette amélioration, elle estime que le nombre de sages-femmes et la disponibilité d'installations d'accouchements sûrs restent insuffisants. L'UNFPA aide les autorités à établir des cliniques de santé reproductive dans 31 sites de déplacés internes. L'agence onusienne rappelle également que l'augmentation des déplacements est aussi un facteur de risque croissant de violences basées sur le genre. Dans ce contexte, il y a eu une intensification des efforts pour prévenir et combattre cette violence, notamment la coordination et la fourniture d'un soutien psychosocial et d'autres services.
Le chef de l'Organisation mondiale de la santé a annoncé cette semaine les principaux défis urgents en matière de santé mondiale pour les 10 prochaines années. Une façon pour Dr Tedros d'appeler les pays à investir plus dans le secteur de santé. Selon lui, de nombreux pays sont prêts à investir dans la protection contre les attaques terroristes, mais pas à allouer des fonds pour arrêter la propagation d'un virus, même si une pandémie peut être beaucoup plus meurtrière et plus nuisible sur le plan économique. Sur les 13 défis énoncés, on écoute Fadela Chaïb, porte-parole de l'OMS.
Nous avons énormément de défis dans le domaine de la santé et l'OMS a consulté avec plusieurs experts et nos bureaux à travers le monde pour savoir quels sont les défis sanitaires qui nous attendent pour la décennie qui vient. Et nous en avons sorti 13 qui ont une portée internationale importante et qui touchent le plus grand nombre de personnes. Par exemple, les changements climatiques, parce que avec les changements climatiques, il y a plus d'événements tels que la sécheresse, les inondations. Vous voyez l'exemple de ce qui se passe en Australie aujourd'hui. Et puis surtout, il y a des maladies qui deviennent de plus en plus difficiles à gérer, comme par exemple le malaria. Et avec les températures extrêmes, par exemple quand il fait très chaud, nous avons beaucoup de personnes qui décèdent à cause de la canicule, qui ont des attaques cardiaques ou qui ont des problèmes respiratoires ou pulmonaires ou des problèmes d'asthme qui deviennent difficiles et qui mettent leur vie en danger.
Retour sur le séisme dévastateur qui a frappé Haïti il y a 10 ans cette semaine. Les 30 secondes qu'a duré la secousse du tremblement de terre de magnitude 7 a transformé Port-au-Prince et les villes de Gressier, Léogane et Jacmel en champs de ruines, entraînant la mort de plus de 200 000 personnes et laissant plus d'un million sans domicile. Ce mercredi, l'Office des Nations Unies à Genève et la mission permanente d'Haïti auprès de l'Office ont organisé une commémoration. Louis Germain, haïtien et actuel ombudsman adjoint de l'organisation, a connu le séisme de près. Il a témoigné lors de la cérémonie et ici devant la télé de l'ONU.
Je pense que Haïti fait face à beaucoup de difficultés. Je pense que Haïti a fait face à beaucoup de crises depuis le séisme. On parle des saisons de cyclones, par exemple, qui ont beaucoup ravagé la situation chez moi. Et en plus de ça, on a eu l'incident de choléra qui a été vraiment pas tout à fait bien géré, soit dans le contexte international, soit dans le contexte gouvernemental et national du pays. Alors, je pense que Haïti n'est pas nécessairement au point où on devrait être pour préparer le peuple pour faire face à une tragédie comme on a eu il y a 10 ans.
Et quel était le rôle de l'ONU après et aussi pendant le séisme?
Bon, pendant le séisme, je pense que l'organisation s'est trouvée vraiment dans une situation très, très difficile. MINUSTAH n'avait vraiment pas un mandat pour faire face à une tragédie comme on a vécu il y a 10 ans. Je me rappelle que le jour de l'incident, bon, non seulement que l'organisation a perdu vraiment la hiérarchie, la tête de la mission, parce que le SRSG et son député ont perdu leur vie dans le séisme, mais on s'est trouvé dans une situation où le chef de l'administration se trouvait vraiment le responsable pour chercher à tout gérer. Je me rappelle le lendemain du séisme, le président du pays est venu vers lui pour demander de l'assistance alors que lui, il n'avait vraiment pas l'expertise ni un mandat pour assister à une démarche pareille. Alors je pense que pour l'organisation, c'était plutôt difficile de savoir exactement comment adresser la situation. Mais malgré tout, je pense que l'ONU a décidé peut-être de mettre de côté son aspect bureaucratique et de regarder comment on peut aller vers l'assistance, soit au peuple haïtien, soit aux fonctionnaires de l'organisation qui ont été affectés par le séisme. Et je pense que dans le contexte de mes années de carrière avec l'organisation, c'était pour moi la période la plus précieuse au point de vue du rôle de l'organisation.
Et la dernière question, comment on peut se reconstruire personnellement après avoir vécu une telle tragédie?
Bon, je pense que c'est un processus progressif. Bon, je pense que la leçon principale que j'ai appris, c'est que le temps, le présent est précieux. Parce que je vois que très souvent, on vit dans le futur. On parle de ce qu'on va faire à la retraite. On parle de ce qu'on va faire dans un an. On planifie toujours. Mais la réalité, c'est que dans la vie, on n'a que le moment actuel. On ne sait pas exactement ce qui va se passer d'ici dans 10 minutes ou 5 minutes ou même 2 minutes. Alors, il faut vivre à chaque moment comme si c'était le dernier, parce qu'on ne sait jamais.
Voilà, fin de ce journal de Nu Info, à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.